Vous avez sûrement déjà vécu de grands changements dans votre vie, c'est déjà arrivé. À moins que vous soyez tellement jeune que ça ne vous soit jamais arrivé. Mais même les jeunes subissent quand même des changements, passer de l'école primaire au secondaire. Mais peut-être que récemment, vous avez vécu un grand changement, un déménagement, la fin d'un emploi. On pleure avec ceux qui ont appris récemment qu'ils avaient perdu leur emploi et on prie pour eux. Mais les changements, ça vient de nous bouleverser. Des fois, on arrive à des grands tournants dans notre vie. Ça peut être un mariage aussi. C'est un événement heureux, mais c'est tout un changement. Le décès dans la famille, le décès d'un proche. Des changements majeurs, ça peut créer de l'inconfort dans notre vie, une insécurité. Toutes sortes de sentiments peuvent être provoqués par cela. Ça peut même être la peur, la tristesse lorsqu'on est obligé, lorsqu'on perd quelque chose auquel on tenait. Si vous vous souvenez des grands changements qui sont arrivés dans votre vie, quelle a été votre réaction par rapport à Dieu? Peut-être qu'à certaines occasions, votre réflexe a été de vous tourner vers Dieu. À d'autres occasions, non. On arrive dans l'histoire de la Genèse au moment où Jacob vit un grand changement. Il en a déjà vécu plusieurs dans sa vie. Mais là, il arrive à l'âge de 130 ans. Et il croyait passer le restant de ses jours à Canaan, attendre la mort, toujours dans le deuil de son fils Jacob, son fils Joseph, qui était décédé, selon lui. Mais là, il apprend que son fils est vivant. Là, ses plans sont complètement changés. Il doit quitter Canaan pour se rendre en Égypte, une terre où il n'a jamais mis les pieds. Lui et toute sa famille partent. C'est un grand bouleversement, une grande tournure inattendue dans sa vie. Lisons cela dans Genèse 46, Genèse verset 1. Israël, qui est Jacob, partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans des visions nocturnes. Et il dit, « Jacob, Jacob! » Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte. C'est moi qui t'en ferai aussi remonter. Et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël transportèrent leur père Jacob ainsi que leurs enfants et leurs femmes sur les chariots que le Pharaon avait envoyés pour son transport. Ils prirent aussi leur cheptel et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Ainsi Jacob se rendit en Égypte avec toute sa descendance. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, et toute sa descendance. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Ruben. Fils de Ruben, Enoch, Palou, Hetzron et Carmi. Fils de Siméon, Yemuel, Yamin, Oad, Yakin et Tsophar. Et Saül, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Fils de Juda, Er, Onan, Shéla, Péret et Zéra. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Péret furent Hetzron et Hamul. Fils d'Issacar, Tola, Pouva, Yom, Shimron. Fils de Zabulon, Séred, Elon et Yaleel. Voici les fils que Léa enfanta à Jacob à Padan Aram, outre sa fille Dina. Ses fils et ses filles faisaient en tout 33 personnes. Fils de Gad, Tifion, Agi, Shuni, Etzbon, Eri, Arodi, Areli. Fils d'Azer, Yima, Yishva, Yishvi et Beria. Et Sera, leur sœur. Fils de Beria, Héber et Malkiel. Voilà les fils de Zilpa que Laban avait donné à sa fille Léa. Et elle les enfanta à Jacob. En tout, 16 personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Fils de Benjamin, Béla, Béker, Ashbel, Géra, Naaman, Ei, Roc, Moupim, Houpim et Arb. Voilà les fils de Rachel qui naquirent à Jacob, en tout 14 personnes. Les fils de Dan, Ushim, fils de Nephtali, Yatsuel, Guni, Yetzer et Shilem. Voilà les fils de Bila, que Laban avait donné à sa fille Rachel. Elle les enfanta à Jacob, en tout 7 personnes. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient en tout 66 personnes, sans compter les femmes des fils de Jacob. Fils de Joseph qui lui était né en Égypte, 2 personnes. Donc le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Judas devant lui, vers Joseph, pour le précéder, vers Goshen. Et ils arrivèrent au pays de Goshen, et Joseph attela son char et monta en Goshen à la rencontre de son père, Israël. Dès qu'il parut, il se jeta à son cou et il pleura longtemps à son cou. Israël dit à Joseph, « Que je meure maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu es encore en vie. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais monter avertir le Pharaon et je lui dirai, « Mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces gens sont des bergers de petits bétails, car ce sont des éleveurs. Et ils ont amené leurs petits et leurs gros bétails, ainsi que tout ce qui est à eux. Et quand viendra le moment où le Pharaon vous appellera et dira, « Quelles sont vos occupations? » Vous répondrez, « Tes serviteurs sont éleveurs, depuis notre jeunesse jusqu'à présent, comme l'étaient nos pères. » De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers de petits bétails sont en horreur aux Égyptiens. » Et prions un instant. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour la Bible, merci pour ce récit de la vie de Jacob, qui est là pour notre instruction, pour nous servir d'exemple, et nous apprendre qui tu es, nous révéler ta personne, ton caractère. Ouvre les yeux de notre cœur par ton esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Donc, nous voyons différentes manières dont Dieu intervient dans nos vies. Une première manière, c'est que Dieu intervient pour révéler sa présence, pour nous rassurer. Jacob est parti de la vallée d'Hébron, et ça faisait déjà plusieurs années qu'il était là. Il part avec tous les siens, et il descend vers l'Égypte, et il passe par Beersheba. Beersheba qui signifie « le puits du serment ». C'est l'endroit où Abraham avait fait serment avec Abimélech devant l'Éternel. C'est le premier serment qu'Abraham avait fait devant Dieu. Donc, dans un sens, c'était un serment à Dieu qu'il faisait. Au chapitre 21, on voit c'est pourquoi on appelle cet endroit Beersheba, car c'est là qu'ils prêtèrent serment l'un et l'autre. Ils conclurent donc une alliance à Beersheba, après quoi Abimélech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Et Abraham planta un tamaris à Beersheba et il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. C'est non seulement l'endroit où Abraham a fait un pacte, une alliance, il a invoqué Dieu. Il a invoqué son Dieu. Il s'est resté dans les annales. Isaac, plus tard, le fils d'Abraham, au chapitre 26, il dit qu'il a... Il était obligé de se déplacer à plusieurs reprises parce qu'il vivait plusieurs difficultés jusqu'à ce que finalement il arrive à Beersheba. L'Éternel lui apparut cette nuit-là et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Sois sans crainte, car moi, je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Isaac bâtit là un autel et il invoqua le nom de l'Éternel au même endroit qu'Abraham l'avait fait. Et il dressa sa tente, et ses serviteurs y creusèrent un puits. Et c'est là que Jacob a passé une bonne partie de sa vie alors qu'il habitait avec ses parents, jusqu'à ce qu'il doive fuir la colère de son frère Ésaü pour aller chez Laban. Et cet endroit-là, lors de son voyage, lorsque Jacob part avec toute sa famille pour se rendre en Égypte, Jacob s'arrête à Beersheba, puis il décide d'offrir des sacrifices à Dieu. Il est dit au Dieu de son père. Il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Peut-être même qu'il a utilisé l'autel qu'Isaac avait bâti dans ce lieu pour offrir des sacrifices. Ce n'est pas dit, mais certainement qu'il savait que son père avait invoqué le nom de Dieu à cet endroit. Il ne pouvait pas passer sans se tourner vers Dieu. C'est normal pour un serviteur de Dieu de se tourner vers son Seigneur quand notre vie prend un tournant aussi drastique. On n'a pas toujours ce réflexe-là, mais c'est normal, parce qu'on vit un grand changement de se tourner vers son Dieu. En arrivant à Beersheba, Jacob arrivait à la frontière sud de Canaan, quelques pas plus loin, puis il sortait de la terre qui a été promise à son père, à son grand-père. Il quittait le lieu de bénédiction, de protection de Dieu. Même plus tard, c'est devenu une expression. On lit à plusieurs reprises dans la Bible, lorsqu'on veut parler de tout Israël, l'expression qui dit « de Dan jusqu'à Beersheba ». C'est vraiment pour montrer la limite sud. Et en sortant de là, il s'en allait en Égypte. Il n'y avait pas d'autre destination. Et Jacob quittait le pays promis par Dieu, l'endroit où il pensait passer le restant de ses jours. Âgé de 130 ans, il n'y avait pas de grands projets pour le reste de sa vie, là. Même à plusieurs reprises, il a parlé de sa mort, que ses cheveux blancs allaient descendre dans le séjour des morts. Même au moment où il a appris que Joseph était vivant, il a dit « Je vais aller voir son visage avant de mourir. » Pour lui, il attendait le jour de sa mort. Mais Dieu avait d'autres plans pour lui. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vivre un grand changement dans votre vie. Plusieurs parmi vous ont immigré ici au Canada, ont quitté leur terre natale. D'autres ont quitté leur ville, l'endroit où ils sont nés. D'autres ont quitté un emploi, que ça faisait plusieurs années où ils étaient. Ils ont vécu de grands changements. Et peut-être vous avez cherché la face de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, on peut être ému de toutes sortes d'émotions. La tristesse, la nostalgie, l'insécurité, la peur. C'est un facteur de stress de vivre des changements comme ça. Ça m'est arrivé dans ma vie personnelle, En y réfléchissant, je me suis souvenu du jour où je suis parti de Sherbrooke. J'ai grandi à Sherbrooke pour m'en venir à Montréal, la grande ville. Puis ça m'a fait de quoi de quitter cette ville-là. Même je me disais, je vais y retourner. Mais Dieu avait d'autres plans. Je ne suis jamais retourné. Il faut dire que j'ai pris une femme à Montréal aussi. C'est dur de repartir. Je me souviens qu'à chaque fois, j'ai quitté un emploi aussi où j'avais demeuré un certain temps, quand j'ai quitté Millennium, ou plus tard, Grey Matter, j'avais un sentiment de nostalgie, là. Même avant cela, pendant mes études à l'université, j'avais fait un stage de 8 mois dans le département d'ingénierie à Hydro-Québec. Puis la dernière journée, mon patron m'avait demandé, « Avant de partir, peux-tu faire du classement dans tes dossiers là, pour être sûr que le prochain qui vient, tout soit en ordre? » Puis je suis resté jusqu'à 11h au minuit le soir, là. Mais là, j'étais tout seul dans le bureau, c'est rendu les lumières tamisées. Puis quand je suis parti, là, j'étais nostalgique, là. Jamais plus j'allais mettre les pieds là. Ça me faisait de quoi? Mais c'était une étape que je devais franchir. En quittant notre maison à la campagne aussi. M. Mélodie et moi, on était pas mal tristes. On pensait rester à cette maison-là jusqu'à notre retraite, jusqu'à notre mort. Mais Dieu avait d'autres plans. Mais ces événements-là où ça m'est arrivé, ça m'est pas toujours. J'ai pas toujours eu le réflexe de me tourner vers Dieu, mais ces événements-là précis, je me suis tourné vers Dieu pour lui demander son réconfort, sa paix. Et une direction claire. Puis Dieu répond. Dieu répond à nos prières. Et on voit ici que c'est Dieu qui a permis que Jacob s'arrête à Beersheba. Ce n'était pas par hasard que tout à coup l'envie a pris à Jacob d'arrêter, d'offrir des sacrifices. Dieu voulait lui parler. Et cette même nuit, Dieu a parlé à Jacob dans des rêves nocturnes, des visions nocturnes. C'était très clair, là. Et c'est Dieu qui lui parlait. Et il voulait le rassurer. Dieu n'était pas obligé de faire ça, mais on a un bon Dieu. Un Dieu qui prend la peine de nous donner sa paix, de nous rassurer. Et il lui a répété des promesses qu'il avait déjà faites à son grand-père et à son père, et même à Jacob lui-même. Mais en plus, il l'a réinformé de sa présence. On peut voir même 4 aspects dans ses promesses. Si on relit le verset 3 et 4, il dit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte. Car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte, et c'est moi qui t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Premièrement, il répète la promesse qu'il avait faite à Abraham, son alliance, de faire de sa descendance un grand peuple, un peuple nombreux. Il lui réassure cela. Même si tu quittes présentement la terre que j'ai promis de donner à ta descendance, même si tu t'en vas en Égypte, ma promesse tient. Peu importe ce qui va t'arriver, ma promesse tient, mon alliance tient bon et elle va s'accomplir. Ta descendance va devenir un peuple nombreux. Il avait dit à Abraham, « Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra plus la compter. » Et à Isaac aussi, il avait répété cette promesse, « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. » Et à Jacob lui-même, il lui avait dit, chapitre 28, « Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. » Donc Dieu réaffirme, il n'était pas obligé de réaffirmer, Dieu peut donner une promesse une seule fois et c'est bon. Mais c'est pour nous qu'il répète ses promesses, pour nous rassurer. Et ce jour-là, il voulait rassurer Jacob. En plus, il lui promet qu'il sera présent lui-même. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte. Wow! Dieu promet que comme il était avec lui dans les étapes de sa vie passée à Jacob, il sera encore là, même dans une terre hostile qui n'aime pas les Hébreux ou les bergers. Dieu va être là avec lui. Il ne va pas seulement le surveiller à distance. C'est sûr qu'il le fait, il envoie ses anges, mais il est personnellement là. En plus, il lui promet qu'il protégera sa descendance. Parce qu'il dit, « Et même, je descendrai avec toi, et c'est moi qui t'en ferai aussi remonter. » En parlant de sa famille, la famille d'Israël, « Je t'en ferai remonter, donc je vais protéger ta descendance. Quoi qu'il arrive, ta famille va rester dans son intégralité, et tu vas ressortir de cette terre. » Tu vas remonter en Canaan, dans le pays que j'ai promis. En plus de lui faire une promesse qui concerne toute sa famille, il lui fait une promesse personnelle à lui. Il dit, « Ton fils Joseph va prendre soin de toi jusqu'à ta mort. C'est lui-même qui va te fermer les yeux. » On voit toute l'attention particulière que Dieu a pour chaque personne. Même s'il a un plan global, dans ce plan global-là, il prend soin de chacun de nous individuellement. Ça dépasse notre intelligence, mais Dieu est d'une sagesse infinie. Non seulement il ne nous abandonne pas, mais il veut que l'on sache qu'il est présent. Et il nous le révèle. Par son Saint-Esprit, il nous convainc de sa présence. En lisant la parole, on le voit. Et par nos frères et sœurs aussi, on sent sa présence. Il est là. Les chrétiens n'ont pas tous aucun de nous, on a un lieu comme Beersheba où on peut se rendre adorer le Dieu au même endroit que notre Père, où on peut recevoir des visions, où on peut aller chercher la face de Dieu. Mais on a encore mieux que cela. On a un accès direct au trône, un accès direct à Dieu en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, grâce à Jésus qui est mort pour nous. Ce qu'on vient de célébrer ce matin, ce qu'on se rappelle, c'est que grâce à ce sacrifice-là, le fait que le corps de Jésus a été meurtri, a été mis à mort, que son sang a coulé, à cause de cela, le lieu où on peut adorer Dieu, c'est partout, c'est sur toute la terre, en tout lieu. Et en tout temps, Jésus nous donne un accès. Il fait que notre présence devant Dieu est pure, sainte. Elle n'est pas entachée ou souillée par nos propres péchés, par nos fautes. Nous avons un accès en tout temps à ce Dieu. C'est ce que Jésus avait promis. Et il avait dit à la femme samaritaine, vous vous souvenez, dans l'Évangile de Jean, lorsqu'il parle à la femme samaritaine, lui dit, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que l'endroit pour adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Par l'Esprit qui est en nous grâce à la mort de Jésus, nous pouvons adorer Dieu. Donc, croyez en Jésus. Si ce n'est jamais arrivé, cette expérience-là dans votre vie, croyez que Jésus est mort pour vous. Dieu promet qu'il enverra son Esprit en vous, qu'il vous reconnectera à lui. Vous pourrez être en communion envers ce Père qui est bon, qui prend soin de vous. Vous pourrez l'invoquer, il entendra votre voix, il répondra. Donc, Dieu intervient de plusieurs manières dans nos vies pour nous rassurer. Ça, le fait que nous soyons en paix, ça lui est cher. Il veut cela. Il intervient aussi d'une manière globale, comme on l'a déjà dit. Il s'occupe de tout. On n'a pas à craindre qu'il va échapper des choses. Là. L'erreur est humaine, oui, mais elle n'est pas divine. Dieu ne fait pas d'erreur. Il s'occupe de tout. Et le texte, à partir du verset 5, insiste pour nous montrer que toute la famille de Jacob s'est retrouvée là-bas. Dieu s'est occupé que toute la descendance qui était vivante à cette époque-là de Jacob soit prise en charge et s'en aille au complet, dans sa totalité, en Égypte, et qu'elle soit protégée. Toute la famille de Jacob était en Égypte et les enfants de Jacob n'ont pas été divisés. Personne n'est resté en Canaan. Personne n'a été oublié. Et pour s'assurer que ce soit vraiment clair, le texte même présente la liste. Ce n'est pas une liste de tous les noms, sans exception de la famille, mais c'est une liste qui représente toute la totalité de la famille. Ce qui est une autre indication de cela, c'est le nombre 70. Au verset 27, « Fils de Joseph qui était né en Égypte, deux personnes, et le total des personnes de la famille de Jacob qui vint en Égypte était de 70. » Ce n'est pas un hasard si ça arrive à 70. Moïse, guidé par le Saint-Esprit, a voulu nous montrer cela. Et le chiffre 70 revient à plusieurs reprises dans la Bible. C'est un chiffre symbolique. Et à chaque fois, on voit un point commun. Ça nous montre l'intervention de Dieu qui intervient dans la vie d'un groupe d'une manière totale, sans laisser tomber personne. Et les 70 représentent, dans le fond, ce groupe-là. Par exemple, on a déjà vu, ben on ne l'avait pas souligné, mais au chapitre 10 de la Genèse, après qu'il y a eu le déluge et que les nations sont nées des descendants de Noé et qu'ils ont construit la tour de Babel, Dieu est intervenu et descendu sur terre et a confondu leur langage. Ils ont été distribués sur la terre. Mais quand on compte la liste, le nombre de nations qui sont mentionnées, il y en a 70. C'est pour montrer que toutes les nations descendent de Noé. Et ont été, toutes les nations n'ont pas, aucune n'a échappé au plan de Dieu. Plus tard, on verra, comme Dieu a promis, le peuple d'Israël sortira, reviendra d'Égypte. Et alors qu'ils sont dans le désert, dans Exode 15, pendant son exil dans le désert, Dieu intervient pour secourir tout le peuple qui a soif. Et pour cela, Dieu conduit tout le peuple à un oasis où il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et tout le peuple peut boire. Plus tard, il donne la loi à Moïse. Et Moïse a la charge de juger le peuple. Dans Exode 24, on voit que Dieu intervient pour conclure une alliance avec tout le peuple. Avec tout le peuple. Et il y a 70 anciens qui sont là pour représenter le peuple d'Israël. Plus tard, ces mêmes 70 anciens sont représentés lorsque Dieu punit le peuple d'Israël pour avoir osé murmurer. Beaucoup plus tard, à l'époque des juges, au chapitre 9, il y avait eu le massacre de la famille de Gédéon par un homme qui s'appelait Abimélec. Et Dieu intervient pour venger, pour rendre justice à la famille des descendants de Gédéon. Et ceux qui sont nommés parmi ses descendants, c'est ses 70 fils qui représentent, dans le fond, toute la descendance de ce juge-là qui avait été exterminé par Abimélec et que Dieu veut venger. Il n'en oublie aucun. Bon, il y a plusieurs autres exemples. Un autre exemple, c'est lorsque Israël et Juda, la tribu, tout le peuple, à force d'être adultère contre leur Dieu, à force de renier leur Dieu, Dieu les punit et les envoie en exil à Babylone. Pour combien de temps? 70 ans. Et Daniel a une prophétie où il voit les 70 semaines qui amènent jusqu'à Christ. Et Jésus lui-même a établi 12 apôtres qui sont les chefs qui ont l'autorité déléguée de Dieu sur cette nouvelle alliance sur l'Église. Et après cela, il dit dans Luc 10, le Seigneur en désigna encore 70 autres et il les envoya devant lui, deux à deux, dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait aller. Donc, dans toutes, il les envoie, dans le fond, et partout où ils avaient accès à cette époque. Et ça représente toutes les nations. Ça représente la mission que Dieu confie. Et c'est le verset suivant qui est bien connu, qui dit, « Il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Donc, les 70 disciples qui ont été envoyés ce jour-là représentent, bien, nous représentent, représentent tous les disciples que Dieu envoie dans toutes les nations. Dieu ne laisse rien lui échapper. Il s'occupe de tout. Quand il intervient, c'est d'une manière totale et globale. Et c'est pour offrir sa grâce. C'est ce qu'il veut que l'on sache dans cette ère du Nouveau Testament, dans cette ère de l'Église. Il veut qu'on connaisse sa grâce, son pardon. C'est le message de la bonne nouvelle, que Dieu peut nous pardonner. Et ce n'est pas un hasard encore si Jésus utilise le chiffre 70 quand son disciple lui demande « Mais combien de fois je dois pardonner? Est-ce que c'est 7 fois? » Non, 70 fois 7 fois. Tous les péchés. De manière globale, tu vas pardonner comme Dieu pardonne tout. Ici aussi, dans Genèse 46, le nombre 70 est significatif parce que Dieu s'est occupé de toute sa famille. Et tel que promis, 400 ans plus tard, 430 ans plus tard, lorsque le peuple d'Israël est dans le désert et que Moïse leur raconte ce récit-là, ils voient bien que Dieu a tenu promesse. Et ils avaient besoin de savoir quelles étaient leurs racines, qu'ils provenaient tous de ces 12 fils de Jacob. Ça n'avait pas été mêlé par des sangs d'autres nations et aucune tribu n'avait été laissée. Dieu s'était occupé de toute la descendance de Jacob. Ils sont l'ensemble complet du peuple de Dieu. Les 12 tribus proviennent vraiment des 12 fils de Jacob. Et à leur sortie d'Égypte, ils étaient 600 000 familles. 600 000 hommes sans compter leurs femmes et leurs enfants. Ça fait du monde. À l'œil, on ne peut même pas compter. C'est innombrable, comme les étoiles. Donc, Dieu intervient pour nous rassurer. Dieu intervient d'une manière globale aussi, sans rien échapper. Et il intervient aussi en travaillant avec les personnes que l'on côtoie. Il s'occupe même de nos relations interpersonnelles. On voit, à partir du verset 28, l'arrivée de Jacob et de ses fils en Égypte. Dans la région de Goshen. Et Jacob, alors qu'ils approchaient, voulait rencontrer Joseph et il envoie Judas à la maison de Joseph. Parce que Joseph n'habitait pas à Goshen. Donc il envoie comme messager Judas pour aller rencontrer Joseph. Et Joseph part avec son char jusqu'à Goshen pour accueillir son père qui arrivait. Pourquoi ce détail? Pourquoi Judas? Mais une fois de plus, on voit que Dieu a été intervenu. Dieu voulait que ce soit Judas qui soit le premier dans ses retrouvailles. Là. Judas, Dieu a touché son cœur dans le passé. On a vu par plusieurs péripéties. Là. Il a fait de lui le leader de la famille. Alors qu'il n'était pas l'aîné, mais il l'a rendu l'aîné, le responsable de la famille. Dieu a voulu cela. Et encore une fois, ce n'est pas un hasard. Il est envoyé devant Joseph, et il conduit Joseph à son père, en Goshen, pour lui montrer le chemin. Dieu montre par là la place primordiale qu'il réservait à la tribu de Juda. C'est de là qu'est sorti le roi David, à qui Dieu a promis qu'il aurait toujours une descendance royale, et le roi des rois est né de la tribu de Juda, le Seigneur Jésus, le roi éternel. Là, on voit les retrouvailles de Joseph et de son père bien-aimé. Ça devait être très émouvant. Lorsque Joseph a vu son frère Benjamin, il a dit qu'il a pleuré à son cou. Ici, c'est la même expression, mais un petit peu plus. Il dit qu'il a pleuré au cou de son père longtemps. Il se jeta au cou et il pleura longtemps à son cou. Son père qu'il aimait, il lui avait manqué. Puis les retrouvailles ont comblé Jacob au point où il a dit « Maintenant, je peux partir en paix. Je suis prêt à mourir. » Il était rassasié. Peut-être qu'il savait aussi que le plaisir est éphémère. Il avait goûté la joie de la vie commune avec son épouse Rachel, mais ça a été éphémère. Il n'a pas vécu longtemps. Il avait connu des peines dans sa vie, Jacob. Peut-être que là, il vivait une grande joie puis il voulait que ça se termine comme ça pour bien finir. Mais Dieu lui réservait encore 17 années. On apprend plus tard qu'il a vécu jusqu'à 147 ans. Donc, c'est Dieu qui décide les jours qui nous sont comptés. Dieu a ensuite utilisé, on voit, il a utilisé l'intelligence de son fils Joseph pour s'assurer qu'il s'établisse bien à Goshen. Donc, Dieu a utilisé Jacob, il a utilisé Judas, maintenant il utilise Joseph, il utilise les personnes. Ce n'est pas qu'il nous manipule comme des marionnettes, mais il utilise notre propre volonté. Nous agissons par notre propre volonté, mais c'est Dieu qui agit à travers nous. Et ici, on voit que Dieu agit à travers la bouche de Joseph qui conseille sa famille. Il les avait envoyés à Goshen parce que c'était une région à l'écart des Égyptiens et il allait pouvoir être préservé. Il n'allait pas se mêler parce qu'ils auraient très bien pu aller être engagés comme des conseillers du roi ou engagés dans l'armée ou au service de la prison. Ils pouvaient avoir des postes élevés, là. Ils étaient la famille du gouverneur principal d'Égypte, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et Dieu s'est arrangé pour leur donner les bonnes paroles. Et Joseph leur a préparé les paroles à dire. Il leur a dit, quand vous allez rencontrer Pharaon, et qu'il va vous demander quelles sont vos occupations, ne commencez pas à parler de toutes les choses qui vous intéressent, là. Dites-lui que vous êtes des bergers, des éleveurs. C'était vrai, cela. Mais le choix des mots est important, comme un bon avocat qui nous prépare lorsqu'on doit donner notre plaidoyer. Et Jacob, Joseph l'a bien conseillé. Et quand le serviteur de Dieu agit avec un cœur droit, Dieu le conseille. Dieu fait la même chose pour nous. Il nous l'a promis. Et Jésus a dit que même si on vit des difficultés, même si on a le cœur droit et qu'on est prêt à respecter la volonté de Dieu, au risque de recevoir même des persécutions ou de recevoir des injustices de la part de nos ennemis, de ceux qui veulent du mal aux serviteurs de Dieu, bien Dieu va s'occuper de nous donner la sagesse dans nos paroles, savoir quoi dire, savoir comment agir. Il dit dans Matthieu 10, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Dieu peut même nous accorder la faveur de nos ennemis par la manière dont nous parlons. Encore là, on n'a pas à craindre l'inconnu, comment nous allons réagir. Dieu s'occupe de cela. C'est entre ses mains, c'est son plan. Donc, son plan même englobe nos relations interpersonnelles, qu'on dirait que c'est comme imprévisible. Mais Dieu s'occupe même de cela, même de notre propre réaction, de notre cœur. Et Dieu est intervenu auprès de ce peuple, et on va le voir dans le chapitre suivant, comment Dieu est intervenu et que ça a apporté de bons fruits. Donc, Dieu est intervenu auprès de Joseph pour lui donner ce bon plan ici, pour parler à son père et à ses frères. Il est intervenu auprès des frères aussi, pour qu'ils disent de bons mots. On va le voir quand il se présente devant Pharaon. Il est même intervenu auprès de Pharaon pour leur attirer sa faveur et que Pharaon soit d'accord. Le récit de la Genèse, ici, on approche de la fin, il reste quelques chapitres. Mais si vous avez remarqué, la Genèse nous relate surtout les grands changements qu'il y a eu. On n'apprend pas beaucoup sur la vie quotidienne. Qu'est-ce qui se passait lorsque Adam et Ève vivaient seuls, leur vie quotidienne, lorsqu'ils cueillaient les fruits, lorsque Caïn et Abel vivaient, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de tous les jours sur l'arche. Le récit de la Genèse volontairement nous montre les changements qu'il y a eu. La fin des étapes. Dans notre vie, c'est souvent là que ça se passe. Chaque chose que l'on vit va prendre fin un jour. On arrive à la fin d'une étape. Dieu veut qu'on termine bien cette étape, qu'on en commence bien la suivante. Et ultimement, qu'on termine bien l'étape de notre vie sur terre. Il n'y a rien qui dure. Même les choses qui nous plaisent finissent par cesser. Mais Dieu comprend cette souffrance-là causée par la fin des choses, les choses qu'on a à cœur, les choses qu'on souhaiterait garder, les changements qui ne sont pas voulus. Dieu comprend l'inconfort que ça nous cause, le stress que ça nous cause, et il a de la compassion pour nous. Et il veut nous rassurer, nous donner sa paix. Et il travaille, même lorsqu'on croit qu'il est inactif, et peut-être même on attribue un événement malheureux qui nous arrive au fait que Dieu n'a pas pris soin de nous. Non, Dieu est là. Et Jésus l'a dit, « Mon Père travaille jusqu'à présent. » Et moi aussi, je travaille. Dieu est toujours actif. N'ayez pas peur de franchir les nouvelles étapes dans votre vie. Dieu s'occupe de vous. Et Dieu veut vous rassurer. Donc, faites comme Jacob. Offrez-lui à nouveau le sacrifice de votre vie. Tournez-vous vers lui. Consultez-le en lisant sa parole. Invoquez son nom. Priez. Partagez vos fardeaux avec vos frères. On a le devoir d'aider nos frères. Mais parfois, il y a des frères qui ne veulent pas se laisser aider. Partagez vos fardeaux. Laissez Dieu vous aider par vos frères et sœurs et répondre à vos prières. Et Dieu nous réconforte. Et lorsqu'on lit les paroles de Jésus, c'est réconfortant. Et cette table Seigneur que nous célébrons, non seulement on annonce aux gens que Christ est mort pour nous, mais il va revenir aussi. Et si on est prêt à l'annoncer et qu'on le croit, c'est parce qu'il est avec nous. Donc on annonce même le fait qu'il est vivant, qu'il est présent avec nous. Jésus l'a promis dans Matthieu 18, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu s'occupe de nous même d'une manière globale. Il prend soin de tous les aspects de notre vie. Il s'occupe de nos 70 comptes à payer, de nos 70 difficultés familiales, des 70 tâches à faire. Il s'occupe de tout. Dieu s'occupe même des personnes qui nous entourent. On n'a pas le contrôle là, sur le cœur des gens, sur leurs pensées. Parfois, on n'a même pas le contrôle sur notre propre cœur, souvent. Mais Dieu s'occupe de cela. Il s'occupe de nos relations personnelles pour nous protéger et faire accomplir son plan. Donc, soyez en paix. Soyez les bénéficiaires de sa grâce. Persévérez jusqu'à ce que vous soyez enfin dans son royaume auprès de lui, où là, les bonnes choses n'auront plus de fin. Tout ce qu'on aime et ce qu'on veut garder, les bons sentiments, la joie, va être éternel. On n'aura plus la douleur de voir les choses qu'on aime arrêtées.